Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs. C'est toujours une joie d'être ensemble pour méditer la parole de Dieu qui est la vérité. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que c'est là où le Seigneur veut que nous y soyons. Et nous le remercions pour toutes ses grâces. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 12 à partir du verset 13. Évangile de Marc, chapitre 12, à partir du verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer la tribu à César ? » Verset 15. « Devons-nous payer ou ne pas payer ? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Verset 17, alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, comme notre frère Jacob l'a rappelé tout à l'heure, c'est à tes pieds que nous voulons nous placer maintenant. Nous voulons nous revêtir de ton esprit seul et dépouiller de notre intelligence humaine. Veuille nous enseigner, Seigneur, au travers de cette parole, car ta parole est la vérité. Nous savons que toute écriture est inspirée de toi, utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que nous puissions être accomplis. Mais nous pouvons être accomplis seulement en toi, Seigneur Jésus-Christ. Parle maintenant à nos cœurs. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Oui, chers frères et sœurs, il y a innombrables des citations ou des expressions qui sont annoncées, mais d'où l'origine provient réellement de la Bible. Exemple, tel père, tel fils, c'est ce qu'on emploie, mais ça vient de la Bible. Jean 14, 9. Jeter la première pierre, ça c'est tiré aussi de la Bible. Jean 8, 7. Ni chaud ni froid, c'est dans Apocalypse 3, 16. À chaque jour suffit sa peine, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34. Deux poids, deux mesures. Ça aussi, c'est tiré de la Bible. C'est dans Proverbe 20, 10. Une période de vache maigre, c'est dans Jérémie 23, 6. Tour d'ivoire, c'est dans le Cantique de Dorée, chapitre 7, verset 5, etc. Il y a beaucoup de citations qui sont employées dans nos mondes, mais qui sont tirées de la Bible. Et aussi, aujourd'hui, nous voulons voir l'expression qu'on emploie souvent, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Souvent, on emploie rendez à César ce qui est à César et on oublie de compléter le reste. On se limite seulement rendez à César ce qui est à César. Le Seigneur n'a pas dit rendez à César ce qui est à César. Point. Il y a une liaison, il y a une continuité. Il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous voulons voir le contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur puisse employer ce mot. Pour situer le contexte, chers frères et sœurs, il faut savoir que les Juifs étaient sous la tutelle de l'occupation romaine, de l'Empire romain. Toutes les décisions venaient de Rome et les Juifs étaient considérés comme des citoyens romains. C'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul, quand il a été en prison, c'était à Rome et non à Jérusalem. Il a été plusieurs fois en prison, mais c'était en tant que citoyen romain qu'il était déféré à Rome. Et à ce titre, chers frères et sœurs, les impôts collectés étaient destinés à Rome. Ce sont les fonctionnaires romains qui étaient à Jérusalem qui faisaient la collecte de ces impôts. Et sur ces pièces de monnaie, et sur les billets de banque, il y a l'effigie de César. César, c'est un titre, c'est pas le nom à ne pas confondre avec Jules César. César, c'est un titre qu'on donne aux empereurs ou aux rois à cette époque. Et donc, sur les pièces d'argent, il y avait l'effigie de César. Et si nous allons en Angleterre, nous voyons, si nous avions des pièces d'argent, nous verrons l'effigie de la reine d'Angleterre ou sur les billets de banque. Donc, cette effigie qui était sur les pièces d'argent représentait l'image de César. Les pharisiens et les hérodiens qui sont venus interroger le Seigneur, c'était en fait pour lui poser un piège. Ce qui est quand même merveilleux dans cette histoire, les pharisiens sont les gardiens du temple. Ce sont eux qui veillent scrupuleusement sur les enseignements et les doctrines enseignées. Ils sont les observants de la loi et de la tradition orale et écrite. C'est d'ailleurs pour ça qu'eux, ils combattaient souvent le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur leur apportait un autre message, la bonne nouvelle. Et c'était en contradiction avec leur doctrine. Oui, ces Hérodiens aussi qui sont venus avec les pharisiens sont les partisans de Hérode. C'est eux qui ont rétabli le temple de Jérusalem. Donc, les Hérodiens représentaient l'État ou l'Empire romain, et les pharisiens représentaient tout ce qui est religieux, les gardiens du temple. Mais pour piéger le Seigneur, il fallait qu'ils s'unissent à deux pour coincer le Seigneur. Sur est-ce qu'il faut payer le tribut à César, s'il répondait oui, qu'il fallait payer le tribut à César, il allait traiter comme un collaborateur. S'il dit non, il sera traité comme un révolutionnaire. Donc, en cela, le Seigneur était, pour eux, le Seigneur était coincé. Mais ils ignorent encore l'intelligence et la sagesse de l'homme qu'ils avaient en face d'eux. Oui, quand ils ont posé la question, ils avaient une idée derrière la tête. Leur motivation était seulement de piéger Jésus et le traduire en justice. Le Seigneur est saint, il connaissait déjà leur hypocrisie et il n'avait aucune difficulté pour leur répondre. Cette contribution était destinée à Rome. Et si nous lisons dans les évangiles, nous avons vu que Jésus-Christ était un bon citoyen. Il payait ses impôts. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, il avait dit à Pierre d'aller pêcher un poisson et qu'il prenait la pièce et payait les impôts. Donc, nous voyons que le Seigneur était un vrai citoyen. Il ne s'est jamais dérobé de son devoir de citoyen. Et même cette histoire de payer les impôts a poursuivi Jésus-Christ même jusque lors de son procès. Parce qu'il y a eu des fausses accusations comme quoi il mentait le peuple de ne pas payer le tribut. Mais toutes ces accusations tombaient à l'eau parce qu'il y a quand même des témoins qui étaient là. Et Jérusalem était une grande ville, mais c'était pas aussi une grande bourgade comme New York ou Los Angeles. Donc les gens se connaissaient quand même. Toutes ces accusations n'ont pas tenu une seule seconde. D'abord, Pilate disait « Je vois rien de mal ». Je ne sais pas sur quelle base je peux condamner cet homme, puisque les accusations qui sont formulées ne sont pas bonnes. Alors, chers frères et sœurs, je vous fais observer que les fondateurs de la laïcité ont tiré de la part de cette réponse au Seigneur une occasion de créer ce qu'on appelle de nos jours la séparation entre l'Église et l'État. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous voyons clairement que c'est une séparation de l'Église et de l'État. Dans, en France, dans certains pays, il y a toujours la religion qui est inféodée à la politique. Mais en mettant l'accent sur cette séparation, les pères fondateurs de la laïcité ont tiré vraiment profit de cette expression que le Seigneur a enseignée pour dire « ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc nous sommes bénéficiaires de ces choses, de les paroles que le Seigneur a dites. Ce qui est merveilleux, chers frères et sœurs, aussi, le Seigneur n'a pas dit seulement « rendez à César ce qui est à César », point. Il dit « rendez aussi à Dieu ce qui est à Dieu ». Le Seigneur ne manque pas une occasion pour évangéliser. L'occasion, toutes les fois qu'il a en face de lui des interlocuteurs, s'il ne répond à leurs questions d'une manière précise, tout de suite, il oriente la conversation sur autre chose. Pour la mission dont il est venu accomplir sur cette terre, prêcher l'évangile. C'est pour ça que quand il a dit « rendez à César ce qui est à César », il oriente tout de suite la réflexion de aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous voyons que le Seigneur, il est merveilleux, il n'est pas coincé, et comme dans le passage que nous avions lu, ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Ils répondirent de César. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est mentionné après, et ils furent à son égard dans l'étonnement, parce qu'ils ne savaient pas comment coincer le Seigneur. Ils étaient désarçonnés. Les Juifs qui représentaient la branche, les pharisiens, pardon, qui représentaient la branche religieuse, ne pouvaient pas dire, bon, oui, rendre à César, mais comme il a dit à Dieu, ils étaient coincés. Les Hérodiens, ils ne pouvaient pas dire non parce qu'il n'a pas dit qu'il ne fallait pas payer le tribut. Donc, ils étaient étonnés et ils sont restés comme ça, bouche bée. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça la miséricorde de Dieu. Personne ne peut le dépasser en intelligence. L'Esprit de Dieu était sur lui. Lors de l'accusation, chers frères et sœurs, en Matthieu, je vous invite à lire en Matthieu 17, 24. Cette question de payer le tribut est constante dans la tête des détracteurs du maître. Et cela lui a poursuivi jusqu'à son procès, comme nous l'avions indiqué tout à l'heure. En Matthieu chapitre 17, 24, la parole de Dieu nous dit « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes ?» Oui, dit-il. On peut continuer et je saute, j'arrive au verset 27. Il dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Ça, c'est pour voir si vraiment le Seigneur était un bon citoyen, s'il payait vraiment ses impôts, sa tribu, afin de ne pas donner l'occasion de l'accuser de quoi que ce soit. Aussi, je vous invite à lire dans Luc 23, les deux premiers versets, l'évangile de Luc, chapitre 23, et les deux premiers versets. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Mais on sait que tout ce que cette accusation n'a pas tenu, parce qu'il y a quand même s'ils sont de mauvaise foi, mais il y a quand même eu des témoins. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement dans cela ? Dans ce passage, rendez à César ce qui est à César. Comme modèle, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est notre maître. Il a eu une conduite exemplaire tout au long de son séjour sur cette terre. Et c'est lui que nous devons imiter. Premièrement, le chrétien doit être un bon citoyen. Il doit être exemplaire dans ses droits comme dans ses devoirs. Il doit obéir aux autorités et respecter les lois. Il n'est pas tenu ou obligé de pratiquer certaines, parce que de nos jours, nous voyons qu'il y a la loi qui autorise le mariage des deux personnes de même sexe. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons respecter cette loi. Ça a été voté par les représentants de la nation. Nous devons respecter cette loi. Mais nous ne sommes pas obligés de le pratiquer, parce que le Seigneur appelle ça une abomination. Nous devons veiller sur notre témoignage afin de ne pas donner l'occasion à nos détracteurs pour nous calomnier. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 2, 12. Épître de Pierre, 1 Pierre 2, 12. C'est une exhortation qui nous parle de nos jours, qui est encore d'actualité. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, et ainsi de suite. Et nous pouvons lire, continuer jusqu'au... On peut terminer le chapitre. Et aussi, dans l'exhortation qui est dans Romains chapitre 13, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Puis au verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça, c'est l'exhortation que l'apôtre Paul nous laisse, parce qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir un bon comportement. Comme le Seigneur, qui payait ses tribus, on n'avait rien à lui reprocher et il était irréprochable. C'est pour ça que nous devons l'imiter dans ses fondements. Maintenant, nous avons vu « Rendez à César ce qui est à César » et maintenant « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu » car c'est la continuité. En donnant la réponse aux pharisiens, il est à noter que c'était un principe d'équité. S'il est juste de rendre à César ce qui est à César, il est aussi aussi juste de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Le fait que le Seigneur dit « Rendez à César ce qui est à César » et à Dieu ce qui est à Dieu, le Seigneur, après avoir parlé à ses pharisiens et ses hérodiens, c'est une manière de se tourner vers nous. Il dit, eux, ils rendent à César ce qui est à César, mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Nous rendons un culte malgré la journée chargée au travail. Nous avions quand même trouvé le moyen de venir pour... nous réunir dans la maison de Dieu, participer aux réunions de prière. Ça, c'est la partie « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Le Seigneur, il a évangélisé et nous pouvons vraiment le remercier de cette grâce que cette parole est parvenue jusqu'à nous. Beaucoup ont lutté pour que l'évangile ne puisse pas apparaître. Des Bibles ont été brûlées. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que nous sommes témoins de ces choses. Nous avions entre les mains la parole de Dieu et que nous pouvons la méditer. Sur les effigies qu'on a parlé tout à l'heure, il y avait l'image de César. Mais nous sommes à l'effigie de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. C'est d'ailleurs quand il a... Dans Genèse chapitre 1, verset 27, il dit, après avoir créé le ciel et la terre, le soleil, la lune, tout ce qui est enfermé, il a créé l'homme Et il dit, il a créé l'homme à son image. Donc Dieu nous a créés à son image. C'est sûr que Dieu n'est pas un humain comme nous, mais quand on dit que Dieu nous a créés à son image, c'est que nous puissions avoir les caractéristiques de Dieu. Dieu est amour, nous devons cultiver l'amour. Ça, c'est les traits de Dieu. Puisque Dieu nous a créés à son image, nous repartirons à lui. Comme les pièces de monnaie sont reparties à Rome à l'image de César, nous, nous repartirons au Seigneur, puisque nous avons créé à son image. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu implique aussi une vraie connaissance de Dieu. Le problème dans le monde où les gens sont peut-être religieux, ils prient Dieu, en réalité, je ne vais pas émettre des accusations, mais ils n'ont pas une idée précise de Dieu. Ils viennent souvent d'autres, ils viennent au Seigneur pour ce que Dieu donne, mais ils n'ont pas cette relation personnelle avec Dieu. Ils viennent pour des bénédictions, mais ils oublient que même ceux qui ne croient pas sont bénis. Quand le soleil brille, ça ne brille pas seulement sur les chrétiens. Quand il y a la pluie, il n'y a pas que les chrétiens qui en bénéficient. Quand deux fois au travail, il n'y a pas que les chrétiens qui sont bénéficiaires des promotions. D'ailleurs, souvent les chrétiens sont pénalisés à cause de leur foi. Donc, mais c'est une grâce d'être au Seigneur parce que nous pouvons dire, nous savons en qui nous avons cru. Notre espérance ne réside pas dans les choses matérielles. Dans la confiance humaine. Notre confiance, c'est à Christ. Et c'est à lui seul que nous allons repartir. Rendre à César, c'est de le glorifier, c'est de l'adorer aussi par nos offrandes. Si on est prompt, maintenant, c'est difficile d'échapper parce qu'il y a le prélèvement à la source, directement sur les fiches de paie, donc, comme les jeunes disent, c'est déjà mort. Mais et si l'Église prélevait directement aussi sur nos payes? D'ailleurs, ça se fait, je pense, en Belgique. À l'époque, on prélevait directement sur la paye. On est injuste quand même, pas quand même, peut-être souvent, parce que nous n'adorons pas Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Et pourtant, si on doit rendre à César ce qui est à César, pourquoi serons-nous injustes de rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Comme on l'a lu tout à l'heure dans ces expressions, que personne ne jette la première pierre, nous sommes tous coupables. Mais nous pouvons venir au pied de la croix, demander la repentance et seulement reconnaître notre état de cette désobéissance, parce que ne pas participer à cela, c'est une désobéissance, mais remédier à cela. De la même manière que nous payons les impôts, soyons aussi équitables dans l'œuvre du Seigneur. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est s'impliquer dans la vie de l'Église. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est passer un moment avec lui. C'est méditer sa parole. Si dans une journée de 24 heures, il y a 12 heures, et que nous savions que la durée moyenne, c'est 7 heures pour le travail, sans compter le temps de partir, et ainsi de suite, on peut arriver facilement à 10 heures, consacrées à César, c'est-à-dire le travail, tout ça, où la partie spirituelle n'est pas au rendez-vous, c'est à César. Parce que c'est à partir de ce travail qu'on paie les impôts. Travailler, c'est une chose louable, le Seigneur d'abord le recommande, mais c'est la partie de César. 10 heures, entre le travail, la fatigue, tout ça, il reste un peu de temps quand même. Je ne pense pas que souvent on prend 7 heures aussi dans la méditation d'être avec le Seigneur. C'est pour ça que le compte n'y est pas, chers frères et sœurs. Nous n'allons pas nous voiler la face. Le compte n'y est pas. Mais nous pouvons avoir 7 ans avec le Seigneur d'une manière intense. Se lever le matin, avant d'aller au travail, prendre un temps pour remercier le Seigneur. Puisque nous avons le temps de nous préparer le matin pour aller au travail, le même temps que nous passons pour nous préparer, est-ce que nous ne pouvons pas l'investir aussi pour le Seigneur? Rendre à Dieu ce qui est à Dieu implique aussi tout cela. Soyons équitables, chers frères et sœurs. Nous ne nions pas qu'il y a la fatigue. Autre chose, nous sommes des fois stressés d'aller au travail quand il y a les bouchons, quand les transports sont en grève. Nous sommes stressés de peur d'arriver en retard, de peur de passer pour quoi que ce soit devant les collègues. Et pourtant, quand il s'agit de l'Église, on n'est pas stressé de venir, on ne rend pas... C'est un peu difficile ce que je dis, mais c'est tout à fait vrai, chers frères et sœurs. Il faut qu'on puisse être zélé de venir à l'Église, venir à l'heure, commencer le culte ensemble. Parce que ce n'est pas à ce grand Dieu de venir nous attendre, c'est à lui que nous devions attendre. Oui, chers frères et sœurs, rendre à Dieu ce qui est à Dieu implique notre engagement dans la vie de l'Église. Dans le conseil que nous pouvons donner les uns les autres, dans l'exhortation de la parole de Dieu, c'est aussi ça, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, chers frères et sœurs, en donnant cette réponse, le Seigneur nous a interpellés directement. Puisque nous devons rendre à César ce qui est à César, rendons aussi à Dieu ce qui est à Dieu. De la même manière que le Seigneur a mis les pharisiens devant les faits accomplis, il nous a aussi mis devant les faits accomplis. Pour terminer, chers frères et sœurs, si nous professons que nous appartenons à Christ, si nous reconnaissons que nous sommes à l'image de Christ, et si nous confessons que Christ est mort pour nos péchés, quand je dis cela, c'est tiré de la parole de Dieu. Si nous professons que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, comme le dit dans Romains chapitre 8, les versets 1, si nous savons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, si nous sommes une nouvelle créature, et que les choses anciennes sont passées, et que toutes choses sont devenues nouvelles, si nous, dont Dieu nous a tant aimés, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle, si nous sommes conscients de toutes ces choses, et que nous les confessons de tout notre cœur, et puisque vous rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Prions. Éternel, notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole et nous sommes conscients que tu nous as parlé directement. Tu nous as interpellés de notre manière de conduire. Et nous te sommes infiniment reconnaissants de cela. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les occasions où nous n'avons pas glorifié comme il faut, où nous ne sommes pas zélés pour toi, où nous privilégions certaines choses avant toi. Daigne nous pardonner. Ouvre nos yeux et nos cœurs afin que nous puissions regarder à toi, car nous sommes créés à ton image et que nous repartions vers toi. Bénis ces moments que nous passons devant ta sainte face et accepte-nous, Seigneur, tels que nous sommes, car nous venons de la part de Christ, celui qui a payé le prix à la croix pour nous. Oui, Seigneur, si tu nous regardes à nous tels que nous sommes, tu détournerais ton regard. Mais c'est caché en Christ que nous venons. Daigne accepter, Seigneur, nos prières, car nous savons que toi, tu es notre seul Rédempteur. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions toutes ces choses. Amen.